C'est la mort aux trousses, le podcast qui...
Bonsoir. Bienvenue à la mort aux trousses, genre 54 ou 72. En fait, ouais. Qui compte? Qui compte?
Ah oui, je sais pas.
Aujourd'hui, je suis toute seule. L'esprit de Marion a...
Non, je suis pas là. Je suis
plus
là. Voilà. C'est fini. Je me rends.
Comment vas-tu?
J'abandonne.
D'accord. Voilà.
Très bien. Stop.
Qu'est-ce qui a fait que...
Tu veux tout. Là, c'est...
D'accord. Super.
Je peps. Je peps.
Faut que ça s'arrête. Le confinement, la vie.
La vie, en général, quoi.
Le... Ouais, ouais.
C'est un tout.
Ouais, ouais, oui.
On est dans le rejet aujourd'hui.
D'accord. C'est le thème du le thème de l'épisode. On espère que notre invitée sera elle aussi dans le rejet. Moi, ça va. On avait été faire une petite marche
ouais,
ce matin.
Trop bien.
On a marché pendant une heure, hein, fois deux, à moins d'un kilomètre de chez nous aussi, hein.
Fois trois.
Bon, voilà. Mais
c'est pour toutes les fois où on n'a pas été se balader.
Oui, on n'a jamais été se balader.
D'ailleurs.
Donc, en fait, normalement, on a le droit d'aller se balader une heure par jour et on ne l'a jamais fait.
Ouais.
Donc là, on s'est dit,
ouais, on donne tout.
On cumule tout.
Voilà.
Donc, on a été sur l'île du Ramier qui est en centre de Toulouse. Et en fait, il n'y a personne. Et donc, on a été faire notre petite balade là-bas et c'était bien sympa.
Trop bien.
Voilà. On a découvert certainement l'endroit le plus frais de Toulouse, ce qui nous servira grandement, je pense.
Incessamment sous peu.
Incessamment sous peu. Voilà. Pendant que tout le monde sera en train de s'agglutiner au jardin des plantes, là où il y a de l'eau qui coule contre un caillou, et si tu mets ton dos comme sur certains temps, un angle, ça te rafraîchit. Voilà. Nous, on aura une longueur d'avance. Donc, on avait ça, c'était cool. Et voilà. Et après, j'ai eu mes règles, mais c'était moins cool. Voilà. Bref. Bon, aujourd'hui, on a essayé de rappeler une de nos invitées phares.
Ah oui.
et peut-être que cette fois-ci, on va enfin réussir à parler du confinement avec elle, parce que quand on avait fait son épisode, finalement, on n'avait pas du tout parlé du confinement.
Bon, pourquoi faire?
Bah non, ça sert à rien. Donc, aujourd'hui, on rappelle Camilla. On l'appelle de suite.
Hola. Hey, salut, hola. Comment ça va dans la casa?
Ça va.
Dit-elle sans
pression. Ah bah,
dit-elle alors qu'elle vient de dire qu'elle voulait arrêter la vie.
Ah merde.
Et toi, comment ça va?
Non, bah écoute, nickel. Comment dire? Je sais pas, je me présente. Je suis toujours Camilla.
Oui.
Et je suis toujours recruteuse. Dans l'animation, non plus pour longtemps.
Oui.
Mais voilà, j'ai passé mon confinement solo dans mon studio.
Ouais.
Jusqu'à cette semaine où du coup je me suis confinée chez ma sœur jusqu'à la semaine prochaine. Et que dire de plus? Oui, bah non, enfin, est-ce que la vie a un sens?
Non, je crois pas.
Bah, je sais plus trop là. Hein.
Je pense qu'on peut s'accorder pour dire que non.
Ouais, voilà. Les étoiles sont pas alignées cette année. D'autant plus qu'il y a deux jours, j'ai croqué dans un bout de baguette et le fil de fer qui tient mes dents droites après les bagues, tu sais, la contention, s'est décollé du côté droit. Donc j'ai un fil de fer qui pend dans ma bouche. Je maintiens savamment avec de la cire. Donc il n'est pas exclu qu'à tout moment ça s'enlève et que ça parle comme ça.
Sourire d'enfer.
La vie devient compliquée. Histoire de... Bref.
J'aime
donc, non, autant vous dire que j'ai paniqué de ouf. Le centre de mon dentiste était fermé pour une durée indéterminée. Donc, j'ai craqué, j'ai paniqué. Je lui ai envoyé un message sur Facebook parce qu'apparemment, maintenant, je suis une de ces personnes. et voilà, il m'a rassurée. C'est un amour. Et il m'a dit de patienter jusque la semaine prochaine, quoi. Donc, c'est ce que je fais.
D'accord. Et tu sais que j'aurais pu écrire à Lydie, juste, qui est dentiste et qui aurait pu te rassurer.
Oui, bah, je vais m'empresser de le faire, je pense, après notre appel, car, comme beaucoup de personnes, je pense, durant le confinement, ce qui me garantissait un bonheur chaque jour, c'était de pouvoir manger et de cuisiner des belles choses que j'allais ensuite manger.
Oui.
Et là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas mâcher quoi que ce soit sans que j'aie un putain de fil de fer qui me pique la langue. Donc, ouais,
Okay.
peut-être je lui envoie un petit message à Lydie.
Putain, mais ouais,
Stay tuned.
horrible. Ouais, si elle a
Ouais,
pas si elle a pas
super
une
dernière
cucaracha.
semaine de confinement.
Putain, mais j'imagine, ouais. Trop chiant. Tu peux plus manger de cinnamon rolls, de toutes ces choses.
Plus rien. Non, mais bon, les cinnamon rolls, en même temps, c'est bon, j'ai donné. J'étais obsédée pendant 3 mois et quand j'ai décidé d'en cuisiner pendant le confinement, j'en ai fait 12. Et quand on vit seul, ça fait beaucoup de cinnamon rolls dans la semaine.
Oui.
Donc, je fais une mini saturation.
Ouais.
Et voilà quoi.
Mais du coup là maintenant donc t'es chez ta sœur et tu peux cuisiner pour tes petits-neveux.
Ouais, dans la mesure où ils sont réticents à manger tout ce qui n'est pas cordon bleu
Ah oui.
et autres dégueulasseries, je cuisine plus pour tous, minus les enfants, quoi. Mais ouais, non, non, bah, écoute, au moins ça change.
Ah
Je
ouais,
suis
c'est
contente
pas
d'être avec ma sœur, même si, du coup, c'est vrai que ça fait un gros choc entre la vie seule et la vie avec des petits,
mal.
confinés depuis 2 mois. Cette semaine, il y a eu aussi une panne de réseau général, donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé dans toute la ville et dans d'autres villes du Val-de-Marne.
Ouais.
Donc les gosses, pendant 3 jours, ils étaient un peu tendus, quoi.
C'est l'apocalypse. Oui, les gosses ou toi? Parce que...
Et moi aussi, un petit peu.
Ouais, j'imagine, ouais. Putain, ouais, l'apocalypse, là, vraiment...
Il est temps que ça cesse. Il est temps.
Ouais, il est vraiment temps, ouais. Putain. Tu t'as prévu quoi, ça, pour le déconfinement? T'as prévu... Est-ce qu'il y a genre le premier truc que tu vas faire, la liberté
Alors,
retrouvée?
je pense pas que je vais sortir des masses dès le début du déconfinement parce que je suis pas non plus entièrement optimiste par
Ouais,
rapport à la situation.
bien sûr.
J'ai déjà un repas de prévu avec Agathe le week-end prochain, donc ça c'est cool.
Trop cool,
Donc
trop bien.
clairement la semaine prochaine là, je vais aller faire quelques courses et du coup je vais pouvoir m'aventurer à faire des courses hein, au-delà de un kilomètre de chez moi, donc ça j'en suis bien contente.
Ouais.
Mais sinon non, enfin je pense pas que le déconfinement va avoir un gros impact sur ma vie puisque dans 2 semaines je suis au chômage.
Ah, ouais, bon. Mince.
Hey, donc bon bah finalement
Super.
finalement bon je pense que je serai vouée à rester un petit moment chez moi
Ouais.
cet été.
Ouais. Putain. Bah
Putain.
écoute, si t'es au chômage, viens dans le sud, hein. Viens nous voir.
Hey, c'est une idée,
Bah
vraiment.
ouais. Tu sais, nous, on fait rien. On fait rien non plus, hein. Si tu veux, je te paye pour que tu fasses mon infirmière en juin. Non, je
Ça
déconne,
va,
je
bon, j'ai
galère.
raté. Je suis désolée, j'ai 3 épisodes de retard sur le super podcast, donc du coup, je sais pas si j'ai raté des scoops.
On a des scoops? On a des scoops? Non, je crois
Je
pas.
sais pas, hein.
Oh
Ok.
non. Non, non, non.
Bon,
Non,
I
attends,
ask.
les 3 épisodes de retard. C'est quoi, c'est Talula? Talula, elle nous a parlé des procès des animaux.
J'ai lu les résumés avant d'avoir le temps de les rattraper. J'ai vu que Mika et Migbe ont parlé de vaudou.
Et oui, ouais, Mika a parlé un peu de sa thèse et en fait, il a lu des extraits d'un auteur, bon, en gros, sa camarade
Ouais, de planteur esclavagiste.
du 18e siècle, ouais, un esclavagiste qui parle en fait de. Décrit Saint-Domingue, donc Haïti, mais d'avant, quoi. Et donc, du coup, qui décrit la vie des esclaves et aussi ensuite les rites vaudous. Voilà.
Trop intéressant. J'ai pensé en fait en faisant mes recherches pour l'histoire d'aujourd'hui parce que je voulais à la base raconter une histoire de sorcière. Et du coup, je me suis retrouvée à lire une thèse
Ah
sur
ouais.
les sorcières en Équateur. Et bon, finalement, j'ai pas choisi cette histoire, mais du coup, j'ai trop hâte d'écouter
Ah, ben ouais, non,
cet
c'était
épisode-là.
intéressant. Du coup, il explique voilà, d'où vient le vaudou et d'où vient plein de trucs qui ont un lien avec le vaudou. Et aussi, en fait, bon, quand il a lu les passages donc qui enfin raconte la vie d'esclave, en fait, il l'a fait, tu sais, genre à l'époque, les S, il les faisait en F. Donc, du coup, il raconte tout en faisant faux, comme ça.
Ah oui. Voilà. Comme moi, comme en fil de service décollé de ma agence.
Oui, exactement. Ah. Ah, là, mais t'as une semaine à tenir. Dans une semaine, c'est bon.
Ouais. Non, mardi, ça sera bon.
Ah, mardi,
bon, ça va.
Okay. Ouais, ça va.
Cool. Ok. Ok, donc toi, confinement, pas vraiment très... Enfin, déconfinement, pas vraiment optimiste. Et, et depuis qu'on s'est parlé officiellement dans le podcast, comment s'est passé ton confinement, du coup, à part faire des gâteaux?
J'ai continué à travailler en télétravail, mais j'ai été du coup mise en activité partielle.
Ouais.
Du coup, je travaillais les matins généralement, ce qui était cool parce que ça me permettait de garder un rythme. Ouais. Sinon, moi, le matin, je vis pas.
Oui, bah oui, c'est bien.
Donc voilà. Bon, et du coup, j'ai appris que à cause de l'impact du Covid sur nos projets qui étaient retardés, etc. Mon contrat ne pourrait pas être renouvelé tout de suite, donc ça a été un peu un coup dur, j'avoue que j'ai bien badé ce week-end-là. Mais sinon, en dehors de ça, non, je garde la pêche. Je pense que j'ai quand même plutôt bien vécu la solitude. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas,
Et ça t'a surprise de bien le gérer ou pas?
Non, pas tellement. Non. Non, je suis un peu. Non, ça m'a pas trop surprise parce que j'aime bien. Ouais, je suis un peu un loup solitaire. Non, mais je. Voilà, ça m'a permis de prendre le temps de un peu prendre mon temps, quoi. C'est beau ce que je dis. Non, mais de faire des choses qui me font plaisir. De reprendre la lecture, un peu de dessin, la guitare. Il y a des jours où vraiment c'est vrai que j'avais envie de rien et du coup je me sentais un peu comme une merde, mais j'essaie de me dire que déjà si on se sort de ce truc vivant et en bonne santé, c'est pas trop mal.
Ouais,
donc je m'efforce de pas culpabiliser, de pas par exemple avoir profité de ce temps pour passer mon code. Voilà, ce genre de truc utile et pratique. Franchement ça va. Là, peut-être que aussi le fait d'être avec ma sœur depuis quelques jours, ça a un peu fait que j'oublie ce que c'était de vivre seule pendant aussi longtemps. Et du coup, c'est vrai que ça me fait vachement du bien de avoir des interactions avec d'autres êtres humains. Non, c'est plutôt cool. J'en suis plutôt à un stade où je crois que j'angoisse du retour à la vie normale. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu de façon 100% effective. Et je ne sais même plus à quoi ça ressemble, quoi. Ça me fait un peu peur.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent comme ça. Alors, personnellement, moi, je suis pas dans... C'est pas du déni, c'est du... C'est peut-être du déni. Non, mais j'y réfléchis pas, quoi. Enfin...
Ouais, c'est marrant parce que du coup, là, chez ma sœur, donc ma sœur, elle me rejoint assez dans ça, dans le fait que maintenant, c'est presque la vie dehors qui lui fait un peu peur, quoi.
Ouais.
Pas en raison du virus ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est parce qu'on s'est trop habitué finalement à être à la maison et que... Je sais pas, on est... Voilà. Mais son mec, lui, c'est tout le contraire. Lui, il commence vraiment à devenir fou. Et il a qu'une envie, c'est sortir. Et j'avoue que ce qui me fait aussi plutôt envie, c'est de pouvoir enfin reprendre une vraie activité dehors, marcher.
Ouais.
Plus de 28 pas par jour, ça va être
plutôt sympa. Ah ouais, là, tout à l'heure, on a marché. Et du coup, moi, j'ai ma montre qui me dit... Elle vibre quand je dépasse les 10 000 kilomètres. Non, quoi. Les 10 000 pas, je ferai jamais 10 000 km, soyons clairs, mais les 10 000 pas, et donc du coup j'étais trop heureuse, mais par contre après j'avais genre trop mal aux pieds.
Ah ouais, non mais alors le jour justement où j'ai fait des cinnamon rolls, Je suis restée 2 heures debout dans la cuisine à pétrir ma pâte et à faire des machins.
Ouais.
Et ben, je crois que c'était peut-être la première fois depuis bien longtemps que j'étais restée debout, debout aussi longtemps. Et j'avais trop mal au dos. Et je me suis dit, ah ouais, c'est grave.
Ah ouais,
franchement,
non,
là, on n'est pas bien.
Ouais. Ton corps, il s'habitue vite à genre perdre tous ses...
Ouais.
À tout perdre, quoi. Je me souviens, 2 semaines de béquille, j'avais la jambe, elle avait mes... il n'y avait plus de muscles dans ma jambe.
Ah ouais, mince. Ça ne
reposait plus, enfin, tu vois, enfin, c'est des trucs. Enfin, si, il y avait des muscles, mais c'est... ma jambe, elle était
ouais,
devenue beaucoup plus...
Ouais, ça ne répondait plus aussi bien que... Mais d'ailleurs, ça se passe bien, tes exercices de kiné?
Ouais, ouais, je monte les escaliers.
Cool.
Et je les descends. Et voilà. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, parce que je me suis dit, bon, on a marché beaucoup, ça va. Ça va aller. Non, il faudrait que je le fasse, mais... Mais bon, c'est bon, c'est jour férié aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête la victoire. Et ouais, est-ce qu'aujourd'hui, on fêterait pas un petit peu aussi la victoire de la vie sur, sur la mort?
D'accord, et c'est ça donc le thème de l'épisode d'aujourd'hui ou...
Ouais, on s'est dit, est-ce que... Enfin, Marion, elle est plus sur le rejet.
Ouais, moi je suis décédée en moitié, donc je peux rien.
Elle rejette. Elle est contre. Ouais. Voilà. Et moi je suis plus sur la victoire.
Ok.
Je sais pas, toi, quel serait le mot de la journée pour toi?
Le mot de ma journée aujourd'hui. Merde. Moi, je sais pas, franchement.
Le vide.
Le vide. Non, Jake. Parce que j'ai traversé une énorme phase, Jake Gyllenhaal. Donc, donc c'est tout ce qui occupe mes esprits, évidemment.
Et hein. C'est tout à ton honneur, c'est parce que vraiment. Ouais.
Quel être exceptionnel.
Quelle belle plante, quelle belle chose.
Je l'aime tant.
Qu'est-ce que tu as regardé voilà.
Donc, on peut dire que c'est aussi ce qui m'aide à tenir cette semaine, peut-être.
Ouais, mais je comprends. Hein. Je comprends. Mais qu'est-ce que t'as regardé de lui alors?
Eh ben du coup j'ai toute une liste de films à rattraper. On a déjà prévu avec Agathe du coup donc en fait ma première activité de déconfinement ce sera avec Agathe samedi prochain. On va se faire un repas qu'on va cuisiner chez moi. Ouais. On va se faire un truc de ouf et on va se faire 2 films et donc un de ces films c'est Nightcrawler.
Ah, génial. Il est trop bien.
Donc voilà, là j'ai envie de me faire cette semaine Nocturnal Animals.
Oui, il est très bien.
Parce que il faut. Je me suis vu le dernier Spider-Man où il joue Mysterio.
Ah, il est bien.
Oui, écoute, Chris, donc on a une amie en commun qui s'appelle Chris qui est très très fan de Marvel et de du coup Tom Holland.
Oui. Et
du coup, elle avait vraiment hâte de me montrer ce film. Moi, j'y connais rien, j'ai zéro culture en super-héros ou pas. Mais du coup, ouais, non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sympa.
Moi, j'ai bien aimé le premier avec Tom Holland. Donc là, c'est Tom Holland, c'est le dernier Spider-Man. J'explique à Marion.
Ah oui, vous m'avez perdu là. Je comprends pas.
Le dernier Spider-Man.
Je sais
là.
Pas qui c'est Tom Holland de son nom.
Son nom est Tom Holland.
D'accord, voilà. Ok.
Mais je crois que je t'ai montré, au début du confinement, je t'ai montré une vidéo d'un acteur en train de parler à ses poules. Tu te souviens pas?
Non, je comprends.
Et il était trop mignon, il parlait à ses poules. Bon, enfin bon. Et il est très très mignon.
Ok.
Et donc, j'ai bien aimé le premier qu'il a fait. Là, il y a eu 2 Spider-Man avec lui. Mm-hmm. Et avant, c'était Andrew Garfield.
Oui. Moi, je me suis arrêtée à ça. Mais voilà. Le premier,
c'était Tobey Maguire.
Ah non, moi, je me suis arrêtée à lui, je crois.
Non.
si, j'ai vu un seul Spider-Man dans ma vie. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
Mais c'est incroyable. Putain, il faut qu'on change ça. Bon, alors, Tobey Maguire, il en a fait 3.
Ok.
Donc Spider-Man, genre.
J'en ai vu un, moi.
Il y avait James Franco aussi dedans.
Oui, voilà, je me souviens.
T'as dû voir le premier, je pense.
Bah ouais.
Avec William Dafoe qui jouait le bouffon vert.
Ouais,
c'est le premier. Voilà. Ensuite.
Et puis c'est tout, hein.
Donc il en a fait 3. Ensuite, il y a eu The Amazing Spider-Man. Et ça, c'était avec Andrew Garfield et Emma Stone.
Mm-hmm.
Trop bien. Je recommande, je les aime beaucoup, ceux-là. D'ailleurs,
ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Andrew Garfield en Spider-Man.
Ouais, franchement, il y en a un. Je crois que c'est le 2. C'est celui avec quand le méchant c'est Jamie Foxx.
Franchement, moi je m'y perds aussi, je sais même pas lesquels j'ai vus exactement.
Bah, y en a un, j'ai été choquée. Je l'ai vu au ciné et genre, à un moment, il se passe un truc à un moment et j'étais là genre. C'était voilà, et là du coup, le dernier c'est Spider-Man, mais en fait, celui-là est pas mal, je trouve, avec Tom Holland parce que Tom Holland est vraiment très jeune. Okay. Et donc il a l'âge de Spider-Man, genre dans les BD, dans les tu vois, dans les comics, Spider-Man, c'est un ado, vraiment.
Ah ouais, d'accord.
Alors que Tobey Maguire, bon, ça se voyait qu'il était plus vieux et tout, carrément. Machin. Ouais. Et là, vraiment, Tom Holland, il a 16 ans, quoi. Vrai, il a pas 16 ans. Il a quel âge, en vrai?
J'en sais rien, il doit avoir 23 ans, 24 ans.
Ouais, mais il en fait 16, vraiment.
Ah ouais?
Ouais.
Et du coup, ça passe bien, je trouve. Je trouve que c'est bien. Et en plus, vraiment, ils sont drôles et tout. Bon, j'aime bien les Spider-Man en général. Je trouve que c'est un super-héros assez drôle. Voilà. Tout ça pour
moi
ça.
Moi aussi. Moi, j'y connais rien, mais je l'aime bien, celui-là.
Ouais. Et du coup, mais j'ai pas vu le dernier. Je voulais trop le voir. Et puis, bon, je me suis laissée passer au ciné.
Non, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Quoi d'autre? Je voulais voir Donnie Darko et en fait le lien que je voulais suivre pour le regarder en ligne, il a pas fonctionné. Il m'a suggéré de voir Love and Other Drugs ou un truc de ce style avec Anna Thaway,
ouais,
que j'avais vu il y a des années, mais enfin j'en avais aucun souvenir, donc ouais. Voilà. Du coup j'ai vu ça.
Rien à voir.
Il faut que je revoie Le Secret de Brokeback Mountain.
Ah ouais.
Que j'ai pas vu depuis très longtemps aussi.
Non,
on est parti sur... non, il faut vraiment que je me refasse.
Ouais, excellent. T'as jamais vu Donnie Darko?
Non.
Putain, il est trop bien.
Incroyable. Ouais, je sais.
Tu vas adorer.
Sais,
bah alors là, je te le dis, tu vas être mais in love de Jake Gyllenhaal parce que c'est les premiers... Enfin, c'est un de ses premiers films.
C'est son premier film, d'ailleurs.
C'est pas son premier... Non, son premier film, c'était Bubble Boy, je crois, un truc comme ça.
Oui.
Où, en fait, il joue un ado et qui a une maladie et qui ne peut pas toucher les gens, qui doit vivre dans une bulle. Et il décide de partir un peu comme un hamster dans sa bulle, là, pour explorer le monde, qui était pas mal. Mais après, oui, ça fait partie des premiers films, quand même. Je sais pas quel est mon préféré de Jake Gyllenhaal. Toi, c'est Brokeback Mountain.
Il faut que tu me le dises.
Ouais, je sais pas. Je le trouve tellement génial dans tout ce qu'il fait.
C'est vrai.
C'est difficile. Moi, je l'avais découvert dans Le Jour d'après.
Ouais. Et... je me le suis fait, je pense, première semaine de confinement.
Ouais. Et je le trouvais... je sais pas, genre, j'avais vu Le Jour d'après et je le trouvais trop beau. Et j'étais là, mais il est super beau, ce mec. Mais en même temps, je me disais, mais... En fait, il n'est pas très beau, mais je le trouve trop beau, tu vois. Enfin...
Ouais, il a une douceur.
Ouais, grave. Et en fait, si, il est
magnifique. J'ai vu un clip musical de 8 minutes de la chanson Time to Dance.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez vu, mais
oui.
Il joue un serial killer dedans. Ouais, j'ai beaucoup aimé.
Ou il joue un tueur, non?
Il joue un gros tueur, ouais. Mais je savais pas du tout qu'il jouait dans le clip de cette chanson que j'ai écouté tellement de fois.
Ouais. Bon. Ouais, il est génial. Et ouais, donc je sais pas trop. J'avais bien aimé Zodiac.
Ouais. Zodiac, il est bien aussi.
Je l'avais trouvé trop bien, ouais.
Ah ouais, Zodiac, il est bien.
Super bien fait. Et lui, il est génial dedans. Et après, franchement, au niveau genre performance d'acteur, tu vas voir Nocturnal Animals, il est fort dedans.
J'ai tellement hâte. En plus, du coup, j'ai appris qu'il jouait également dans une comédie musicale.
Ouais.
Là, à cause du Covid, le show est reporté à l'année prochaine. Donc, autant vous dire que, que je vais me prendre un petit week-end à Londres, un de ces quatre.
Mais, ah, ce sera à Londres?
Ouais, c'est à Londres.
Putain! Ah, tu me dis, hein? Parce que...
Eh bah, ouais, grave. J'en ai parlé à Chris aussi, qui est chaude. Donc, à voir quand est-ce qu'ils annoncent les dates. Mais j'ai bien hâte.
Ah, grave. Faisons ça. Parce que
yes.
Tu peux voir Jake Gyllenhaal.
Ouais, grave.
Ça aide, quoi. Ça aide à faire passer le temps. très bien.
Beau programme, en tout cas.
C'est un super programme.
Oui. On se refuse rien.
Ouais, oh, je suis très fière de toi. Tu t'es lancée dans quelque chose de très noble. En parlant de choses nobles, je sais pas du tout si ça fait transition avec ton histoire parce que on ne sait pas ce que tu as préparé, mais souhaites-tu te lancer ?
Eh bien oui, allons-y. Chose noble, oui, il y a un petit peu de noblesse, un petit peu de victoire, un petit peu de rejet aussi, donc c'est marrant.
Okay. Ça colle parfaitement, c'est formidable.
J'ai vachement hésité parce qu'en fait, je crois que la première fois où vous parliez de, où vous invitez à raconter une histoire, mm-hmm. ça pouvait être une histoire insolite de leur choix, de chez eux, ou peu importe. Donc mm-hmm. j'avais envie de raconter deux histoires, à la fois une histoire d'un personnage en Équateur et une histoire d'un personnage ch'ti. Mm-hmm. Parce que je suis aussi ch'ti, mais je me suis laissée emporter dans la première histoire et du coup je sais pas si j'aurai le temps. Okay. Mais donc du coup j'ai décidé de vous parler de Manuela Sáenz. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc Manuela Sáenz c'est une révolutionnaire équatorienne qui c'est pas trop mal, qui est aujourd'hui reconnue comme l'une des héroïnes de la lutte pour l'indépendance des anciennes colonies espagnoles, mais qui, avant ça, avant qu'on puisse considérer sa prestation comme ça à ce niveau, elle a souvent été réduite au statut de la compagne, l'amante de Simón Bolívar. Donc, Simón Bolívar, pour rappel, c'est un peu un général, c'est le général superstar. Parmi d'autres du continent, comment le décrire,
Et
voilà, bon, bah, il a participé à l'indépendance entre autres de pas mal de territoires, mm-hmm. Qui aujourd'hui sont du coup différents pays tels que la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Panama, ouais. le Pérou bien sûr. Enfin, bon,
il a fait sa tournée.
Il a fait. C'est ça. Donc autant vous dire qu'il a la masse de places et de bâtiments à son nom dans tout le continent, quoi.
Ouais.
Mais back to Manuela. Du coup, Manuela, elle c'est une fille illégitime d'une métisse.
Okay.
Et d'un noble espagnol. Et elle naît le 27 décembre 1797 ou 95, on n'est pas trop sûr. Et elle naît à Quito, en Équateur.
Ok.
On ne sait pas trop si sa mère est morte ce jour-là ou deux ans plus tard, mais dans tous les cas, c'est qu'elle meurt quand Manuela est encore un bébé. Et du coup, on confie Manuela au couvent des Monjas Conceptas, qui est un monastère royal.
Et oui, parce que son père...
Ouais, exactement, parce que son père est un noble espagnol et qu'il l'a reconnu comme sa fille, ce qui est hyper rare. Comme c'est une fille légitime, voilà, généralement les nobles qui ont un enfant illégitime avec une métisse ou une esclave ou peu importe, vont pas se faire chier à reconnaître leur enfant.
Oui, bien sûr.
Et du coup cet enfant n'a pas grand chose à espérer de son père. Ouais. Lui l'a reconnue comme sa fille, et du coup ça explique qu'elle ait quand même grandi avec une éducation et une situation de femme privilégiée pour cette époque-là.
Ouais.
Du coup la vie est plutôt douce quand même au cours de son enfance. Elle rentre régulièrement chez son père, où elle se rapproche beaucoup de sa belle-mère et de son demi-frère, José María Sáenz. Ouais, une fois qu'elle a terminé sa formation au couvent, elle est admise au monastère de Sainte-Catherine de Sienne à Quito, où elle va recevoir l'éducation des jeunes filles de bonne famille de l'époque. Donc elle va y apprendre la couture, la cuisine, l'anglais, le français, l'art de la conversation.
Ouais,
je me suis dit que peut-être je ne me serais pas bavée du champagne devant mon dernier crush si j'avais eu des cours d'art de la conversation dans ma life.
Oh là là, histoire fantastique.
Putain. Donc à 17 ans, elle s'enfuit du monastère. Et là, c'est le début des scandales. C'est un peu le mystère sur sa vie aussi pour les deux années qui s'en suivent, parce qu'elle refuse d'en parler.
Okay.
Et les rumeurs du coin racontent qu'elle a suivi un officier de l'armée royale. D'autres rumeurs disent plutôt qu'en fait, elle s'est rapprochée de femmes. Et donc, du coup, il y a des rumeurs comme quoi elle serait bisexuelle aussi.
D'accord.
Dans tous les cas, ça crée, elle est scandalo, mais elle en a rien à foutre.
Ok, ouais, oui, elle s'en fout, quoi. Elle vit sa vinaigrette, elle...
Tranquille. Exactement.
Elle trace sa route.
Exactement. Elle rentre en ville, donc toujours à Quito, 2 ans plus tard, en 1816. Elle a 19 ans.
Okay.
Et là, elle fait la connaissance de James Stone, un médecin anglais fortuné qui en a plein les poches et qui a aussi 45 ans.
Ok. Voilà.
Et comme c'était la coutume à l'époque, son père lui arrange un mariage avec ce type qui a 26 ans de plus qu'elle et pour qui elle ressent rien du tout, aucun feu ardent de passion, c'est pas terrible. Même une vague odeur de brûlé. Ouais, non, c'est chaud.
Non, mais quand t'as dit au début, genre, elle fait la rencontre d'un médecin anglais, je dis, James McAvoy, direct.
J'ai tellement pensé à toi. Franchement, il y a des scènes de cette histoire où j'ai vraiment imaginé des scènes avec James McAvoy. elle le déteste. Il la dégoûte un peu.
Ouais, là, c'est plus ce genre Bénédicte Cumberbatch dans Reviens-moi, quoi. On est plus sur du...
Voilà.
Ouais.
D'accord. On est plus non plus dans ça, mais bon, ils se marient quand même en juillet 1817 à Lima au Pérou, parce que je sais pas pourquoi c'est la seule ville qui veut bien fermer les yeux sur ces conditions illégitimes de naissance. Ils se déplacent jusqu'au Pérou pour se marier et là ça commence aussi à devenir un peu plus intéressant pour elle, parce que alors que son demi-frère s'intègre dans l'armée de libération, la révolution commence à se mettre en place, elle, Manuela, commence à s'intéresser à la politique et à s'investir dans la lutte pour libérer le Pérou de la tutelle espagnole, dans un contexte où du coup c'est de plus en plus tendu avec ces connards de colons.
Ok, juste pour essayer de comprendre, donc à l'époque, les différents pays qu'on connaît aujourd'hui, ils n'existent pas.
Non, c'est des territoires qui sont donc placés sous la régence espagnole et portugaise selon les régions, selon les provinces.
Ouais.
Les territoires commencent à vouloir du coup réclamer leur indépendance pour pouvoir devenir des pays à part entière avec leur constitution, etc.
Ouais.
Ils en sont encore plutôt loin, même si du coup pas mal de locaux et groupuscules armés se forment pour pouvoir prendre la bataille.
Ok, d'accord.
In real life.
Ok.
Et vraiment des milices qui commencent à se former officiellement, quoi.
Ouais,
avec
d'accord.
Des vraies armes et des vrais.
Avec des vraies armes.
Et du coup. ouais. Et du coup, à ce moment-là, elle, je rappelle qu'elle a 20 ans et qu'elle vient de se marier.
Ouais.
Mais elle prévient tout de suite son mari que du coup il a plutôt intérêt à la laisser vivre sa vinaigrette, justement, et que elle a pas trop l'intention de rester à la maison recevoir ses invités comme lui l'entend. Et donc elle commence à fréquenter des officiers, des révolutionnaires qui du coup la tiennent au secret des avancées de cette révolution. Pourquoi? Parce que du coup en tant que femme noble, elle avait finalement facilement accès au cercle de la vice-royauté. Parce que l'un des rôles des femmes nobles à l'époque, c'était de s'appliquer à obtenir des places pour leur père, leur époux, leur fils, etc.
Ouais.
Tu vois, un peu comme dans un système de cours, tu vois, il fallait toujours être petit peu là, faire des révérences et essayer d'obtenir des faveurs des...
Être sur la photo, quoi.
Des personnes de pouvoir, exactement. Ouais. Donc du coup, elle, de son côté, elle tient les révolutionnaires au courant des événements de cette vice-royauté, parce qu'à aucun moment on s'est imaginé que des femmes pourraient tirer profit de ce statut et participer au mouvement révolutionnaire.
Mais non, parce qu'elles sont trop connes, tu sais.
Mais c'est ça.
Débile. Genre, enfin, en fait, elles sont pas assez intelligentes pour faire partie du truc.
C'est ça, elles sont là, mais elles sont pas vraiment là. C'est un peu les tapisseries, quoi. Donc, ça leur a bien tombé dessus, puisque du coup, elle en profite à fond et du coup, s'investit de plus en plus dans la stratégie militaire avec les révolutionnaires. Et du coup, c'est vraiment... moi, j'aime trop... J'ai lu pas mal d'articles en espagnol. Du coup, je me suis pas amusée à tout traduire, parce que ça fait un bon ouf, mais du coup, il décrivait vraiment ces ambiances qu'on retrouve dans des écrits de révolutionnaires d'époque où ils sont... cachés dans des espèces de salons, d'autres femmes nobles qui elles-mêmes voulaient bien prêter leur résidence dans le contexte révolutionnaire, où du coup tous ces hommes sont en train d'essayer de fomenter des batailles, d'essayer de s'appliquer à penser stratégie, et t'as Manuela au milieu qui tape du poing sur la table et qui leur dit non mais on va y aller parce qu'on va y aller. Vous n'allez pas hésiter sur ce, je sais pas, sur ce groupe-là. Enfin, faut pas avoir peur, il faut foncer.
Ouais, arrêtez de tortiller du cul.
C'est ça, c'est ça.
C'est parti, quoi.
Vamos!
Vamos! c'est le petit hommage à Diego de Top Chef qu'on déteste. Voilà.
Putain, j'ai pas suivi cette saison de Top Chef, mais il va falloir que je rattrape. Et on m'a effectivement dit que Diego était détestable.
Ouais, il arrête pas de dire vamos.
Alors qu'il est dit, en plus. Ouais, bah, écoute.
Putain.
Tout ça pour dire que non seulement, enfin, elle s'implique activement dans les discussions révolutionnaires, mais elle participe aussi aux batailles indépendantistes, c'est-à-dire qu'elle prend les armes et elle combat auprès des hommes.
Okay.
À tel point que du coup, en 1821, la Russie de Saint-Martin, qui est un autre général...
Attends, là, ça ne s'entend plus, Camilla. Ça a bugué, ouais, il faut que tu recommences ta phrase.
Allô, allô, allô.
Ça fait des...
Oups, là, ça va?
Ça va un peu mieux, je crois. Vas-y, relance-toi dans ta phrase, on va te dire.
Ouais, en 1821.
Parfait.
Ok, t'as un autre général, pareil, figure emblématique de la libération sud-américaine, qui s'appelle José San Martín, qui lui est argentin. Lui, il s'empare de Lima, il proclame l'indépendance du Pérou. D'accord. Et là, il décerne à Manuela le titre de chevalière de l'ordre du Soleil du Pérou.
Trop classe.
Ça, qui est la plus haute distinction civile et militaire au Pérou.
Ok. Putain, mais super classe.
Ouais, elle est trop classe. Donc elle commence quand même à se faire bien son petit nom. Et ça commence aussi à beaucoup parler parce que elle a beau être hyper classe et recevoir la plus haute distinction militaire et civile du Pérou, en attendant, elle est quand même mariée. Et elle passe pas trop son temps à côté de son mari.
Ouais, donc oui, c'est quand même, c'est toujours une bonne femme, quand même.
Ah oui, nous on adore. Mais pour l'époque, ça parle beaucoup. Et c'est de pire en pire parce qu'en 1821, du coup, à la mort d'une de ses tantes, elle décide de retourner en Équateur pour réclamer son héritage.
Mmh.
Et du coup, elle laisse en même temps son mari au Pérou. Elle lui dit, bye, moi je rentre au pays.
Bah ouais, grave. Genre, je vais chercher mon flouze, moi.
C'est ça. Et elle arrive à Quito le 16 juin. Elle arrive à Quito en 21.
Ça rebug.
On t'entend plus un peu.
Ah merde.
Non.
Non plus. Putain, chiant.
Et là,
ouais, là c'est bon.
Ok. Donc du coup, elle rentre à Quito en Équateur en 1821.
Ouais.
Elle a 23 ans.
Attends, tu t'es en train de me dire qu'elle a eu la médaille de chevalier du Soleil du Pérou
à 22 ans.
À 23 ans, ouais. 23 ans. À 23 ans, c'était la même année. Ouais.
Et nous, on a fait quoi à 23 ans, tu sais?
Rien.
Ah non, mais...
J'ai jamais eu une médaille de ma vie, c'est bon, je suis nulle en sport.
Putain, moi non plus. Je crois que j'avais une médaille de bronze en GRS, mais c'était juste parce que on m'avait genre laissé porter les cerceaux du groupe, quoi.
Moi, j'ai des médailles en chocolat, s'il te plaît. Ça m'a pas dépendu.
Putain. Moi non plus. Ouais, donc du coup, pardon... L'année suivante, là on est le 16 juin 1822, et c'est vraiment quelques semaines après que l'Équateur ait obtenu son indépendance.
Mmh.
Donc on est à Quito, et t'as celui qu'on appelle le Libertador, Simón Bolívar,
ouais,
qui arrive en ville en faisant une entrée triomphale, mais tu sais, entouré de chevaux.
Quand on arrive en ville là...
Prince Ali. Voilà. Il arrive dans cette ambiance-là.
Oui.
Et à ce moment-là, Manuela a 24 ans, est toujours mariée. Lui, il en a 39, mais il est veuf depuis bientôt 20 ans.
Oh.
Et
Ah oui. Quoi, il a été veuf à 19 ans?
Ouais, il s'est marié hyper jeune et sa femme est morte de la fièvre jaune. Oh. Et il était dévasté. Oh. Il a fait le serment de plus jamais se marier parce qu'il l'aimait d'amour.
Oh non!
C'est trop triste.
Et du coup, c'est là qu'il est parti vraiment. Il s'est dit, en fait, j'ai plus aucune vie heureuse qui m'attend au Venezuela.
Oh,
donc, mon destin, c'est de partir en guerre contre les colons pour libérer le continent.
Mais quoi? Moi, je serais tombée dans la dépression totale. J'aurais été un légume sur mon canapé et je me serais laissée mourir.
Et lui, il a libéré le continent.
Et lui, il a libéré le continent.
Putain, c'est ça, tu vois. Okay. Moi, c'est bon, j'ai une rupture, je me retrouve à écouter du Taylor Swift en 2016, alors que tout va mal, quoi. Et le type, il dit, non, bah écoute, je plaque tout et je vais faire la révolution.
Mais c'est incroyable, ils font tout beaucoup plus vite que tout le monde. Ouais, les gars, ils brûlent...
Tu mourrais plus vite aussi, peut-être que, je sais pas.
Ils brûlent l'allumette par les roues.
Et ouais, donc du coup, donc à ce moment-là, Simon Bolivar, il arrive à Quito en héros de la libération.
Putain, trop classe.
Et dans cette ambiance festive et triomphale, Manuela, elle décrit le premier regard qu'ils échangent. Elle le décrit dans son journal.
J'adore.
Et franchement, ça mérite presque un hashtag fanfic historique ou un truc de ce style. Parce que dans cette ambiance, elle écrit « Lorsqu'il s'approcha de notre balcon, je me saisis de la couronne de roses et de rameaux de laurier et la lança pour qu'elle tombât par devant le cheval de son excellence. » Bon, elle appelle son excellence. Hein. Ouais. Mais en réalité, ce fut de telle sorte qu'elle vint heurter avec toute la force de la chute la casaque en pleine poitrine de son excellence.
Non, c'est pas visé.
J'en rougis de honte car le libertador leva les yeux et m'aperçut les bras encore tout tendus par le geste que je venais de faire. Mais il eut un sourire et m'adressa un salut avec le chapeau bleu sombre qu'il tenait à la main.
Tellement classe. Olé. Oh là là, olé.
Olé. Ah là, regarde.
Putain, c'est trop classe. Attends, bah du coup, j'essaie d'imaginer qui le jouerait dans un film.
Voyons. Bah alors, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai voulu me poser la même question et je me suis sentie mal parce qu'au début, j'ai tout de suite pensé à genre Michael Fassbender et je me suis dit, ouais, mais non, parce que là, on parle de Simon Bolivar, le mec est vénézuélien. Et après, je me suis dit, en même temps, Hollywood caste que des gens blancs. Donc,
ah oui, donc
forcément,
en fait,
s'il devait faire un film sur cette histoire, il casterait forcément un petit peu.
Je sais pas, on pourrait voir un Gael García Bernal ou.
Ouais, bon, après, je vous avoue,
oh
il est moche.
L'acteur qui jouait dans. Putain,
comment
s'appelle cet acteur là? Qui jouait dans Dirty Dancing 2.
Je veux pas.
j'ai pas vu ce film.
Mon dieu, t'as pas vu ce film, mais c'est.
Ouais, je veux pas chier sur Simon Bolivar, mais il est pas très beau quand même.
Bon, sans bras. Mais...
non, mais enfin.
Oui, on va les rendre beaux.
On dirait Vincent Lindon.
Bah voilà, on casse Vincent Lindon pour faire Simon Bolivar.
Ouais, mais bon, de suite, c'est moi.
Benicio del Toro.
Mais non, il a pas du tout la même tronche. Ouais. Ouais, je sais pas.
On va y réfléchir. Je reviens vers vous avec un cast latino-américain.
On y réfléchit.
Et du coup, voilà, là, à ce moment-là, durant cette fête, leurs regards se croisent. Lors du bal de bienvenue donné en l'honneur de Simon Bolivar, qui a lieu juste après, Simon Bolivar arrive à s'échapper un peu aux félicitations pour aller la saluer et la remercier pour sa contribution au soulèvement révolutionnaire. Puis il en profite pour ajouter l'air de rien. « Madame, si mes soldats avaient votre adresse au tir, nous eussions déjà gagné la guerre contre l'Espagne. »
Donc là, comment il la drague de ouf.
Ouais, c'est ça. Là, comment il la chauffe. En fait, toute sa vie, on lui a dit qu'elle n'avait rien à faire vraiment au final... auprès des révolutionnaires, on a toujours critiqué le fait qu'elles prennent les armes avec les hommes.
Ouais.
Et là, t'as l'un des héros de la libération qui la reconnaît pour sa bravoure et son courage. Et du coup, elle se dit, oh, bah, c'est bon, en fait, plus rien peut m'arrêter.
Ouais, bien sûr.
Parce que malgré tout, à cette époque-là, il fallait toujours l'aval d'un homme pour qu'elle puisse être connue, quoi.
Ouais. Oui, mais là, en même temps, c'est un homme un peu classe quand même.
Ouais, c'est ça. Et qui l'apprécie pour ce qu'elle est. Ouais. Et qui va la laisser vivre sa vie comme elle l'entend. Ouais. Donc, autant vous dire qu'il tombe amoureux direct et ils deviennent amant et compagnon de lutte jusqu'à la mort de Bolivar, 8 ans plus tard.
Wow. 8 ans plus tard, c'est tout.
Oh. Ouais, il ne survit pas longtemps, mais du coup, j'en profite pour raconter un petit peu ce qui se passe avant ça quand même.
Ouais.
Du coup. À partir de là, elle l'accompagne dès l'année suivante pour plusieurs de ses campagnes. Lui, c'est un peu compliqué, mais en gros, il avait pour but de créer une espèce d'énorme... comment dire de, il voulait créer une grande Colombie qui soit au final tout le continent, tu vois. Sans que ce soit un empire. Il voulait unifier tout le monde, quoi.
Ouais, ok.
Et du coup, il lui faisait un peu campagne pour ça. D'accord. Et du coup, elle l'accompagne pour ça. Elle participe aussi de façon active. Elle devient colonelle dans l'armée d'indépendance. Oh. Et lorsqu'elle participe pas aux campagnes militaires, elle soutient la révolution en rassemblant, en diffusant les informations stratégiques. Et en essayant aussi de militer pour l'éducation des femmes.
Ouais, putain, trop classe.
Et essayer de leur créer un espace aussi dans l'espace militaire.
Ouais.
Parce que ça leur est interdit.
Ouais.
Bon, elle en profite aussi quand même un peu pour sauver la vie du fameux Libertador. Ouais. Lorsque, lors d'un séjour à Bogota, du coup Bolivar y gouverne alors ce qu'il appelle la Grande Colombie, il fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 25 septembre 1828.
Ok.
Donc au moment où les conspirateurs, les gens qui étaient contre lui, ont tenté de pénétrer dans le palais, Manuela s'est rendu compte de l'attentat qui était en train de se préparer. Donc elle prévient Bolivar. Lui commence à sortir son fusil, son épée, et à dire « Ok, je vais me les faire, calme-toi. »
Dégage de là, je vais me les faire.
Je vais me les faire. Manuela, elle lui a dit « Non, je crois pas, non, tu vas plutôt t'enfuir par la fenêtre et pendant que moi je fais barrage. »
Ouais.
Parce qu'il n'entre pas. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est interposée, elle a tiré quelques balles au sol pour laisser à Bolivar le temps de s'échapper. Et depuis, Simon l'a surnommée la libératrice du libérateur, même si apparemment il parlait de lui à la troisième personne.
Ah, ouais. Ouais, on peut pas être parfait non plus. Hein.
On peut pas.
En même temps, moi je comprends qu'il est un peu le melon. Hein. Je veux pas dire. Il est un peu El Melon.
El Melon.
El Melon.
Et alors pendant ce temps-là, bon, là c'est un peu triste, mais c'est comme ça, le mari de Manuela, James Thorne, il lui demande plusieurs fois de revenir à ses côtés quand même. Manuela, il lui dit plutôt qu'elle veut me faire leur mariage et rester auprès de son amant. Donc
mais le mec, attendez, à quel moment il s'est dit genre, non mais c'est quand même ma femme, enfin je veux bien son amant, c'est ok, d'accord, le mec il a libéré toute l'Amérique latine.
Admettons, je te l'accorde, mais...
Mais quand bon, même. Quand même, on est mariés, enfin je veux dire, ça vaut quelque chose, bon.
Est-ce qu'on peut essayer, enfin ouais, il essaye quand même. Là, on arrive à la partie rejet du coup de l'épisode, puisque quand plus tard, on demande à Manuela ce qui s'est passé avec son mari, elle prend pas trop de pincettes, elle déclare qu'elle pouvait pas aimer un homme qui riait sans rire, qui respirait mais ne vivait pas, et qui lui inspirait les répulsions les plus vives.
Ah ouais, on est dans le rejet
de la personne. Le burn total.
Ouch.
Burn. Voilà.
Donc, bon, son comportement a été réputé extrêmement indécent pour une femme de cette époque, vu qu'une femme ne pouvait exister que par le biais de son mari et qu'elle était toujours mariée officiellement.
Ah ouais, c'est chaud.
Bah ouais, mais bon,
c'était
même
chaud.
Le mec est une fève, quoi.
Ah bah, c'est un fichus, le gars.
Ah ouais, là, c'est.
Oui, bah, tu m'étonnes, lui, qu'il ait un petit peu eu les boules, tu sais. Il devait être là, genre, ouais, je suis le cocu le plus, plus connu du continent, il y a quoi.
Là, tout le monde savait, c'est sûr, quoi.
Elle te trompe avec qui? Je suis sûre que t'as une chance. Non, mec.
Simone Bolivar.
Elle me trompe avec Simone Bolivar.
Laisse tomber, tu sais.
Même un duel, bon, je pense que je crève direct. Hein.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas de... C'est pas grave, hein. Putain. Le pauvre.
C'est le petit... Le petit personnage délaissé de l'histoire.
Mais peut-être que lui, il était amoureux d'elle.
Tu parles.
Bah lui...
Un vieillard de 45 ans, là.
Alors,
qui épouse une gamine de 19.
J'ai pas trouvé beaucoup plus de détails par rapport à ses, comment dire, ses sentiments pour elle. J'ai lu quelque chose comme quoi, oui, il était attaché. Mais parce qu'effectivement, enfin, elle était réputée pour être... très très belle, très jeune, très cool. Enfin, j'y viendrai plus tard par rapport à comment on l'a décrit aussi.
Ouais.
Mais bon, il avait toutes les raisons en fait de vouloir la garder comme sa femme.
Oui.
Et
oui, enfin, c'est pas un objet de collection, donc tant pis pour lui.
Exactement.
Voilà.
C'est un peu ce qu'elle lui a dit aussi. Et en 1830, du coup, Bolivar démissionne de la présidence parce qu'il était malade et il meurt quelques mois plus tard de la tuberculose.
Oh non.
Donc Manuela est dévastée, hein, puisqu'il partageait une histoire qu'elle décrit comme très très passionnelle, comme l'amour de sa vie.
Et alors là, parce que du coup, elle est pas veuve, veuve dans le sens légal, mais elle est veuve du cœur. À quel âge ? Elle a quel âge à ce moment-là ?
Et donc là, alors laisse-moi calculer, j'avoue, j'avais pas fait le calcul.
Elle a à peine 30 ans, non ?
Alors attends, plus. Je remonte un petit peu.
Ils ne sont pas rencontrés quand elle avait 23 ans ?
En 22, elle a 24 ans en 1822, donc 8 ans plus tard. Elle a 32 ans, ouais.
32 ans, ouais.
Okay, ouais. Putain, la pauvre.
Waouh.
Et ça va pas forcément s'arranger parce qu'en fait, le nouveau gouvernement colombien, qui veut exercer d'autres types de pouvoirs, qui veut exercer toute une autre politique, la bannit du pays.
Oh, oui. Bah nickel.
Parce qu'il la considère comme un danger vu que...
Ouais, bah oui.
Voilà, quoi. Ouais. Et du coup, elle s'enfuit en Jamaïque, puis en Équateur, et puis au Pérou. Et finalement, en fait, elle va passer le reste de sa vie à essayer de survivre avec des petits commerces, des traductions, elle traduisait des lettres, de la cuisine. Et quand son mari officiel, donc James Thorne, meurt assassinée, elle peut récupérer aucun héritage, même pas la dot payée par son père le jour de son mariage, parce que du coup, elle avait pas honoré son statut d'épouse. Voilà.
Et
les bâtards. Il est mort assassiné par qui, lui, on sait ?
J'ai pas cherché, mais je peux vous dire ça de suite. James Thorne. Hop. Mais
Attends, la loose, quoi.
Mais est-ce qu'elle garde
plus de mecs que de choses ?
Elle garde plus contact avec son père après ? Enfin, parce que tu dis là que du coup elle vit de petits boulots, etc. Mais ouais.
Son frère, tu veux dire ?
Son père.
Son père est mort finalement relativement jeune aussi.
Ah merde.
Elle finalement n'a plus que ce restant de semblant de statut, mais sans son père, oui, non, elle n'est plus vraiment personne, en fait.
D'accord.
Mais quel enfer.
Elle se retrouve seule. Elle meurt le 23 novembre 56. Du coup, elle a 59 ans. Oh. Et elle meurt d'une épidémie de diphtérie.
Oh, merde.
Et son corps est inhumé dans une fosse commune du cimetière local. Et pour éviter que du coup la maladie se propage, toutes ses possessions étaient incinérées, même les lettres d'amour du coup qu'elle s'était échangées avec Bolivar, et même des documents quand même hyper importants, plein d'informations sur la guerre de libération qu'elle avait gardé chez elle et qui aurait pu beaucoup servir aussi aux historiens aujourd'hui. Enfin bon, du coup tout a été incinéré.
Ouais, de peur que ce soit contagieux ensuite.
C'est ça.
Ils se sont dit, bon, on va tout foutre. Et... Putain, mais quelle horreur. Ouais.
Du coup, j'avais envie de parler d'elle parce que je trouvais que, en fait, c'est un personnage qui a suscité beaucoup de mésententes même auprès des historiens latino-américains. Il y en a beaucoup qui disent que finalement, tous ses mérites, c'était celle... Enfin, il lui est attribué parce qu'elle était l'amante de Simon Bolivar, ce qui est quand même foncièrement aberrant de dire ça, tu vois.
Surtout qu'elle avait déjà la médaille avant de l'avoir rencontrée, quoi. Donc,
Mais c'est ça. Donc voilà, et ça a pris énormément de temps, en fait, avant qu'on puisse la reconnaître vraiment aujourd'hui comme une des héroïnes de la lutte pour l'indépendance.
Ouais.
Et surtout aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que bon, du coup, forcément, son attitude, son indépendance, son influence en politique et tout, enfin, tout ce qu'elle a dit, par exemple, sur son mari, son franc-parler, quoi, tout ça a fait scandale et ça a fait d'elle aussi une avant-gardiste à l'époque dans la lutte pour l'émancipation des femmes, pardon. Ouais.
Mais juste. C'est surtout que, genre, elle s'est démarquée. En adoptant quand même un rôle, enfin une attitude très pas réservée aux hommes, quoi, très masculine. Je veux dire par là que par rapport à, par exemple, je sais pas s'il y a eu d'autres héroïnes de tout ce mouvement d'indépendance, etc. Mais tu vois, genre souvent quand on pense à des femmes qui ont servi pour une lutte de révolution, etc., elle garde quand même un rôle féminin de genre, bon bah tu vois, ça va être de cacher
oui, qui était limité de par ce qu'on limitait les femmes à l'époque. Ouais, c'est le cas d'une autre femme qui s'appelle aussi Manuela, qui s'appelle Manuela Canizales, ouais. Qui elle est aussi reconnue comme un personnage historique important, puisqu'elle a aussi beaucoup aidé à la Révolution, mais elle était beaucoup plus limitée parce que, je sais pas si c'était par choix ou si c'était finalement celle de son mari qui faisait qu'elle pouvait pas non plus s'embrigader dans l'armée comme l'a fait Manuela Sáenz, mais en tout cas, elle, son rôle, ça a plus été de prêter ses salons. Oui, voilà. Stratégique. Voilà.
Et du coup, je trouve que ça rend son histoire d'autant plus exceptionnelle qu'elle a, en fait, elle a réussi tout ça en plus en faisant ça genre dans les bottes des hommes, quoi.
Enfin, exactement.
En dépassant même.
Oui, sans demander leur avis, quoi.
Sans demander leur avis voilà, je trouve que c'est incroyable quand même. Enfin, la meuf, elle est quand même colonelle de l'armée, alors que les femmes ne sont pas censées avoir de rôle dans l'armée.
Carrément.
Donc c'est.
J'ai beaucoup aimé me replonger dans cette histoire. Après, ça m'a énervée aussi parce que du coup, je suis retombée sur le traitement de son personnage ensuite. Et en fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'intellectuels et d'historiens qui sont quand même influents, finalement, qui ont finalement limité son rôle à quelque chose d'hyper décoratif et romantique.
Ouais.
Et non seulement ça, mais en plus à créer autour de sa figure et de ce qu'elle est une espèce de... un peu comme un mythe sexuel. Enfin, vraiment, ils l'ont présenté comme la femme fatale, sentimentale, hors norme.
Ouais.
Une espèce de... Ils l'ont un peu, pendant très longtemps, imbriqué dans cette case-là.
Ouais.
Et le type qui a... c'est un écrivain équatorien qui s'appelle Alfonso Rumasso, qui a écrit sa première biographie, qui a écrit la première biographie de Manuela Sáenz, lorsqu'il décrit la scène, justement, où San Martín la décore de son titre de Cavalier del Sol, au lieu de vanter, je sais pas, le courage de Manuela Sáenz, justement, il choisit de développer tout un stéréotype de femme fatale, et les trois lignes que j'ai trouvées, enfin, c'est vraiment, mais c'est... ça me dégoûte, en fait, vraiment. Et il dit « Manuela, habillée d'une délicieuse robe de soie bleue, large depuis les hanches jusqu'au sol, exhibe ses seins couleur ambre et jaillit sa pulpeuse poitrine offerte qui appelle au plaisir. »
Mais tout cœur,
mais il écrit ça en quelle année, le mec là?
Non, mais je voulais regarder ça parce que ça, j'avoue aussi que je l'ai pas noté, mais ça m'a juste.
Bon, bah, dans tous les cas, c'est. Putain, mais.
Ouais.
Mais n'importe quoi, mais.
Oui.
Et donc, bon, bonne ambiance, bel esprit.
Non, mais c'est incroyable.
Mais voilà, j'avais envie de parler de Manuela parce que c'est. C'est une femme dont on a beaucoup parlé quand j'étais petite, et il y a un musée à son histoire qui est consacré à Quito, que j'avais pu visiter quand j'étais il y a 4 ans, et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de détails que j'avais oubliés, dont je ne me rendais pas non plus compte. Et voilà,
c'est
quoi.
Quelqu'un qui est quand même pas mal célébré aujourd'hui.
Oui, non. L'air de rien, maintenant, vraiment, c'est une femme qu'on reconnaît et dont on rappelle l'histoire. Donc du coup, il y a un musée qui est consacré à sa mémoire à Quito. Mmh. Il y a aussi un buste, du coup, à son effigie dans un des parcs les plus connus de la ville. Il y a une rue qui a son nom. Ça, c'est pour l'Équateur. Mais...
C'est cool qu'elle soit connue.
Oui. Il y a un film aussi qui raconte son histoire, mais je crois qu'il est hyper romantisé aussi.
Mais là, j'ai vu qu'apparemment, il y avait une série Netflix qui s'appelle Bolivar.
Ah bon ?
Ah ouais !
Mais après, c'est sur le Netflix, tu vois, genre...
ah oui, le Netflix
sud-américain. Ouais, je sais pas. Mais ça vaut peut-être le coup de checker ça.
Ah ouais, grave.
Et toi, donc, du coup, c'est tes parents qui t'en parlaient ? Qui te racontaient
Ouais. Mes parents m'en ont parlé, et je me souviens que je devais avoir 8 ans quand ils m'ont emmené voir un film... Donc en fait, à Boulogne-sur-Mer, il y a l'ambassade de... Non, le consulat... Non, la maison, c'est ça, la maison de l'Argentine.
Ok.
Et du coup, il y avait des événements relatifs un peu aux fêtes nationales. Et mes parents étaient amis avec, du coup, le monsieur qui tenait cette maison-là, qui est argentin. Et bon, du coup, ils avaient fait une espèce de projection d'un film. Et c'est pour ça dont je me suis souvenue d'elle. C'est la première fois qu'on m'en a parlé. Du coup, c'était un film qui racontait sa vie. Mmh. Et les extraits dont j'ai les souvenirs, c'est plutôt romancé. Je sais plus parler. Romancé,
romancé. Ouais,
romanticized. Bref. Et du coup, faudrait que je le retrouve. J'ai pas regardé parce que, comme d'habitude, je m'y suis prise à la dernière minute. Et du coup, je me suis trop retrouvée dans ce que Claire disait dans son épisode. Ça fait qu'on se retrouve trop à vouloir faire des recherches plus longues. Et en fait, c'est vraiment comme l'époque du collège et du lycée. T'as envie de faire tout bien, mais en fait.
Bah, c'est très bien.
Ouais. Mais du coup, tu disais que... Enfin, comment du coup les historiens ont pu, même aujourd'hui, l'image qu'on a d'elle, reconstituer un semblant de... Comment dire, de vérité historique, si, comme tu disais, en fait, tous ces documents ont été brûlés.
Elle est morte. Extérieure, je pense. C'était ses documents à elle, ses documents personnels.
Du coup, est-ce que ça, c'est la correspondance de Bolivar qu'on a exhumée et...
Oui, exactement. Oui. Et heureusement, il y avait encore des traces du côté de Bolivar et de sa famille à elle.
Ouais.
J'ai peut-être pas assez aussi précisé que elle venait quand même d'un milieu donc plutôt privilégié, même si ça se tenait qu'à sa relation avec son père et son mari. Et du coup, en tant que femme d'une classe un peu plus privilégiée à cette époque-là, même si elle était investie dans la révolution et la libération des territoires, je pense quand même que sa famille, ou du moins elle, avait un ou deux esclaves, tu vois.
Ah oui.
Je tiens quand même à préciser que c'était pas non plus encore l'émancipation totale de toutes les personnes. Mm-hmm. Parce que j'hésitais entre raconter cette histoire-là et une autre histoire plus axée sur les droits des indigènes. Mm-hmm. Mais bon, ce sera peut-être au prochain confinement, les gars.
Bah ouais, carrément. Non, mais en vrai, même dans tous les cas, moi, ça m'intéresse de l'entendre hors antenne, cette autre histoire. Mais tu disais que tu avais hésité, que tu voulais en raconter deux. Tu voulais raconter quelque chose sur des ch'tis?
Pour les trucs sur les ch'tis, du coup, je ne me suis pas non plus hyper attelée parce que j'ai vraiment été plus dans les détails pour Manuela. Mmh. Je peux vous proposer trois mini-histoires. Il y a l'histoire d'une femme à barbe. Ouais. Ou alors l'histoire d'un pirate, ou alors l'histoire d'une momie, qui était plus une anecdote, puisque ça m'a fait marrer. J'ai appris que la momie, elle est incroyable. Moi, j'adore les histoires de momies. parce que, non, mais c'est ouf, il n'y a pas si longtemps, il y a des scientifiques qui ont découvert des traces de feuilles de coca sur des momies égyptiennes. Mmh. Et les feuilles de coca, ils avaient découvert, mais partie du principe que elle existait à l'époque que, au continent sud-américain. Ouais. Et du coup, comme les Égyptiens étaient des peuples d'explorateurs, ça sous-entendait qu'il y avait eu des transactions ou des échanges ou des navigations sans colonisation, du coup.
Ouais, trop intéressant.
Ouais, ça avait trop bluffé. Bah, et là, sûr, du coup, j'étais tombée sur la news d'une momie qui s'appelle Unut. Qui est une momie recouverte de 500 feuilles d'or, qui est extrêmement bien conservée, qui est une des plus belles d'Europe, en fait, une des mieux conservées, et qui était conservée au musée de Dunkerque. Et en raison de la restauration du musée de Dunkerque, la momie a été déplacée du coup au musée de Boulogne, mais c'est arrivé cette année, là, vraiment en février. Ça m'a fait rire, je me suis dit qu'avec tout ce qui se passe en 2020, c'était peut-être pas hyper malin d'aller déplacer une momie.
Ouais, c'est pas le moment, les gars. C'est pas le moment.
Pas le moment de réveiller les esprits. Mais.
Moi, je pensais pas à ça. Moi, je pensais genre.
Ah non.
Déplacer la momie, tu risques de l'endommager ou des trucs comme ça, mais toi, tu dis genre.
Non, les gars, les esprits. Le démon.
J'entends le démon, mais non.
Donc voilà, je vous invite à googler Unut, la momie dorée, parce que il y a quelques photos et moi ça, enfin je le trouve incroyable.
C'est fou cette fascination pour les momies.
C'est pas non plus la passion de ma vie, mais à chaque fois que je tombe sur des news sur ça, ça m'intéresse.
Que dire ? T'as raté ta vocation d'archéologue.
Carrément. Et tellement d'autres.
Putain, elle va se refaire tous les momies. La momie 1, la momie 2, la momie 3. Moi, ça m'avait bien fait flipper ce...
Mais d'ailleurs, j'ai lu un article hyper intéressant sur l'acteur qui jouait dans les momies.
Ouais.
Enfin, je sais pas, t'es peut-être tombé dessus, non ?
Mais c'est aussi... il joue aussi dans Scrubs et il joue aussi Georges de la Jungle.
Mais oui, mais j'ai appris ça, j'étais pas au courant.
Ouais, j'aimais trop Georges de la Jungle, putain. Je me souviens, j'avais la cassette et du coup, je le regardais tout le temps. Genre tous les jours, je pense. Bon, la perception du temps quand t'es enfant, elle est un peu pétée, donc voilà. Mais je me souviens que je le regardais tellement que j'avais niqué la cassette, en fait.
Ah.
Et donc, ma mère l'avait jetée. Et j'avais fait une crise, mais terrible, mais tellement que... Enfin, j'avais fait une crise sur plusieurs jours, je pense. J'avais fait une crise quand elle m'a dit qu'elle avait jeté. Et ensuite, j'avais fait une crise, un espèce de caprice de merde au Leclerc de Mazères, je m'en souviens. Parce que j'avais vu la cassette et je voulais qu'elle me rachète la cassette. Et elle voulait pas me la racheter. Et j'étais mais j'étais dégoûtée. Mais c'était plus que de l'énervement. C'était de la déception, de la trahison. C'était horrible. Et j'adorais Georges de la Jungle. Et je ne l'ai plus jamais revu.
Incroyable.
Et je me suis dit, un petit peu comme Simon Bolivar qui s'est dit qu'il jamais plus ne se marierait. J'ai décidé de ne plus jamais revoir Georges de la Jungle. Mais j'aimais trop.
Tu l'as jamais revu depuis ?
Non, je ne l'ai jamais revu. Georges George de la Jungle, aussi fort qu'un lion. Ouais. Attention au tronc! Mais j'adorais! Et je suis sûre que je regarde maintenant, je trouve ça extrêmement nul. Hein.
Parce que c'est
une parodie de, une parodie de Tarzan. Ouais. Mais je sais pas, je trouvais que c'était fantastique.
Voilà. Je propose un visionnage si tu te sens prête, évidemment.
Ouais, je sais pas. Je sais pas si je suis prête.
Peut-être mais j'ai lu un article, mais littéralement il y a deux jours sur cet acteur. Je n'étais pas du tout au courant de ce qui lui était arrivé et du coup il explique dans cet article de JQ qu'en fait il avait été agressé sexuellement et du coup par un ancien patron de d'Hollywood et du coup il a été blacklisté, c'est pour ça que sa carrière depuis a fait flop quoi. Ouais, c'est horrible.
Oh merde, je savais pas du tout.
Moi non plus, mais du coup je vous recommande l'article JQ parce que du coup c'est un peu
horrible.
Oui, c'est un témoignage important.
Oh, le pauvre. Ouais, grave, je vais lire ça. Parce que c'est vrai que des témoignages d'agression sexuelle sur les hommes, il y en a eu peu qui sont sortis. Ouais. Alors que, à part toutes les affaires autour de Kevin Spacey.
C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, quoi.
Mais on en a beaucoup moins entendu parler. Et bien sûr, c'est aussi parce que, proportionnellement... Il y a eu plus de femmes qui se sont faites agresser.
Non, mais je pense qu'on serait étonné du nombre de...
Mais on serait étonné, ouais, je pense. Et puis surtout, un mec comme lui, je veux dire, il a quand même, après, du coup, est-ce que c'était avant ou après qu'il ait joué dans La Momie ?
Il me semble que c'était après.
Après ?
Oui.
Putain. Parce que
c'est après Scrubs.
C'est après Scrubs, c'est après Georges de la Jungle. Et après... Et oui, parce qu'après, on n'en a plus du tout entendu parler. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une photo de lui en me disant, il a chargé, quoi.
Ouais.
Enfin, il avait pris cher et tout. Et je pensais que c'était la vie, sex, drugs and rock and roll, quoi.
Ouais.
Un peu qu'il avait peut-être un petit peu chargé sur la cocaïne, mais en fait...
Peut-être pas,
ouais. Et ok. Je me souviens, je trouve que... Alors, c'est un des épisodes qui m'a... fait pleurer de Scrubs.
Ah ouais.
Je sais pas si tu regardais Scrubs, Camilla.
Si, j'adore Scrubs et d'ailleurs rien que cette semaine j'ai recommencé toutes les saisons avec Clémence.
Tu voudrais qu'on fasse ça aussi.
Grave, quelle bonne idée.
Mais toute son histoire à lui dans Scrubs, je trouve que c'est fantastique et l'épisode on essaie de pas spoiler, mais c'est évident que ça veut dire qu'il meurt.
Ouais.
L'épisode où.
Voilà.
Voilà.
Oui.
Et je me souviens, ça m'avait brisé le cœur. ouais. parce qu'il est fantastique dedans. Et à ce moment-là, je n'avais pas fait le lien avec Georges de la Jungle. Et j'étais attachée par ce personnage, je le trouvais genre absolument génial. Et vraiment, mais ça m'avait déchiré le cœur qu'il meure. Et en fait, c'est plus tard, quand je me suis rendu compte que c'était le même acteur que Georges de la Jungle, j'étais là, c'est pour ça. Ça me fait remonter une douleur ancienne. Putain. Ok, ben ouais, j'irai lire cet article. Le pauvre. Mais je crois qu'il a joué dans un truc récemment.
Oui, apparemment, il est en train de... Enfin, du moins, attends, je sais plus quand l'article avait été publié, mais c'était récent. Mm. 2018, enfin, à l'époque, en tout cas, il était sur deux séries.
En train de faire un comeback.
Mais ouais. Juste, oui, forcément, c'est des séries et des projets à succès moindre par rapport à la carrière qu'il aurait pu avoir.
Ouais.
S'il n'avait pas été blacklisté d'Hollywood, quoi.
Brendan Fraser. Voyons, je regarde. Donc, La Momie, Le Retour de la Momie, La Momie, La Tombe de machin. Ok. Et Georges de la Jungle, évidemment. Voyage au centre de la Terre.
Ah, regardez. C'est vrai qu'il a fait ça.
California Man, La Différence, ok. Après, il a fait pas mal de films de merde, hein, aussi.
Ouais, grave.
Voilà, mais l'apprenti fermier, Opération Casse-Noisette.
Oh, waouh.
Non, j'arrive pas à... Ouais, parce que je sais qu'il faisait des films quand il était bien plus jeune. Il a fait des films genre un peu des rom-com et des trucs comme ça, quoi, quand même.
Moi, je t'avoue que je l'ai vraiment vu que dans Les Momies et Georges de la Jungle. C'est vrai que je l'avais aussi en vidéocassette à l'époque, mais je connaissais pas du tout au-delà de ça sa filmographie. Et je suis tombée sur cet article parce que j'étais sur Twitter et que le tweet disait oui, enfin voilà pourquoi ce heartthrob des années 90-2000, qui à une époque était hyper populaire, a disparu du jour au lendemain.
Et ouais, et l'article c'est Whatever Happened to Brendan Fraser?
Oui.
Ouais, ok, je suis dessus donc je le lirai tout à l'heure. Ouh, il y a une petite image de Timothée Chalamet juste à côté. Super.
Ouais, il y a d'ailleurs, non, c'est pas GQ. Je vous enverrai aussi le lien, je crois que c'est Another Man, une interview incroyable de Jake Gyllenhaal, du coup.
yes.
Que je vous recommande aussi. Bon, voilà.
Parfait. Ok, bah super. Bah écoute, c'est magnifique. On va arriver quand même là, du coup, on est à 1h14.
Donc, oui. Il est temps de s'arrêter.
On va peut-être, même si au final, on n'aura pas entendu tes magnifiques histoires de ch'ti, à part La Momie.
Ah ouais, désolé. Bah écoute, non, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement. Moi, je peux.
Ah ouais, grave.
Garde
au chaud.
Je les garde au chaud. Exactement.
Qu'est-ce que tu recommandes aux gens pour finir ce confinement en beauté?
Du coup.
À part toute la filmographie de Jake Gyllenhaal et reprendre Scrubs.
Hormis Scrubs et la filmographie de Jake Gyllenhaal, j'avoue que. Du coup, me replonger dans l'histoire de mon continent, ça m'a redonné envie de lire un livre que j'ai pas lu depuis très longtemps et qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine.
Ouh!
Qui est un essai de Eduardo Galeano, qui du coup considéré vraiment comme un essai à lire quand on veut essayer de comprendre l'histoire de l'Amérique latine et son exploitation des matières premières d'autres pays, d'autres nations. Vraiment, j'en ai un souvenir très marquant. Je l'avais lu quand j'étais au lycée et ça m'a vraiment donné envie de le relire. Je suis un peu dans une période aussi très nostalgique où j'arrête pas de penser à l'Équateur. Le coronavirus a été très très mal géré là-bas, donc c'est vraiment dévastateur pour énormément de personnes. C'est un désastre. Et je sais pas, ça me manque beaucoup. J'ai vraiment envie d'y retourner. Et du coup, voilà, je suis un peu dans cette.
Encore.
Dans cette là.
C'est vrai que tu nous en avais parlé hors antenne de comment ça avait été géré en Équateur, etc. C'est encore. La situation n'a pas changé.
Le nombre de morts diminue peu à peu, mais en fait, juste la gestion a été tellement désastreuse que il y a encore énormément de familles qui ont simplement perdu les corps de leurs proches. Il y a des cas d'une personne à qui on aurait rendu la tombe de son père. Sans finalement vérifier que c'était bien son père. Il y a le cas d'une. Enfin, c'est vraiment. Il y a des erreurs qui sont inacceptables et je pense pas que ce soit aussi grave que quand on a parlé la dernière fois où vraiment il y avait des corps qui jonchaient les rues, etc. Mais il n'empêche que. Enfin, tout le monde est dans un état de panique assez.
C'est la panique totale, quoi.
Voilà.
Ok. Bah, on espère que ça va s'arranger.
Comme ça peut.
Ok. Bah, j'allais enchaîner en disant, et qu'est-ce qui a illuminé ta journée?
Non, mais bon, c'est un fait. On est impuissant par rapport à cette situation. Ouais, c'est vrai que c'est horrible. Ouais. Mais voilà, on peut qu'espérer. On peut rien faire. Ce qui a illuminé ma journée... c'est faire la liste des courses de la bouffe qu'on va se faire avec Agathe, et c'est aussi décider avec Chris qu'on allait regarder Mamma Mia 2.
Ah, je l'ai pas vu, putain, j'ai trop envie de le regarder aussi.
Ah non, mais moi j'avais été le voir au cinéma et j'avais tellement pleuré que le mec à côté de moi il me regardait avec du mépris.
Oh non.
Parce que je sangloutais. J'ai hâte de trouver une façon légale ou pas de regarder ce film.
Et bien tu me dis quand vous décidez de le regarder, si vous êtes d'accord,
moi, bah
je veux bien le regarder en même temps que vous.
Non mais grave, je vais essayer, je te dirai si je trouve un lien ou quoi. Et puis
j'ai déjà le lien genre sur Streamio, il y est.
Ah trop bien, Streamio, bah, je le checkerai. Grave.
Et je te dirai que...
Yes.
Mais ok, trop bien.
Ouais, maintenant ça illumine n'importe quelle journée, je pense. La perspective d'écouter du ABBA, regarder du ABBA, regarder un film sur ABBA, enfin voilà quoi.
Ben moi j'avais trop aimé Mamma Mia. Je l'ai regardé pour la première fois genre l'année dernière. J'ai adoré.
J'adore.
Marion, qu'est-ce qui illumine ta journée?
Oh bah la balade de
ça. Rien. Ouais, la balade elle était bien.
Ouais. Ce matin, ouais, c'était trop agréable quoi.
C'était trop cool.
Ouais.
Ben moi c'est la même
pareil,
chose.
Pareil, ouais.
La balade.
Ouais, j'ai vu ta story sur Instagram, il y avait des photos, je me suis doutée que vous avez dû sortir du coup.
Ouais. Ouais, cool. Bah, c'était cool la balade, on a vu de la verdure. Ouais,
de l'eau. La Garonne est trop belle. Mm. Elle est toute propre, c'est incroyable. Elle est verte claire, quoi. C'est vraiment incroyable.
Ouais.
Donc, ouais.
C'est ouf.
Ça c'était vraiment cool.
Ouais.
Camilla, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de reparticiper à notre podcast. Merci pour cette histoire superbe.
Ouais.
Merci à vous.
Et on espère que le déconfinement va bien se passer quand même. Même si voilà.
Oui.
On espère aussi que s'il y a des gens qui cherchent des recruteuses et tout, tu sais.
Ouais. N'hésitez pas, lâchez vos 06.
Lâchez vos 06.
Je fais tout, je peux tout faire.
Voilà, elle est multitâche. Exactement. Et du coup, reste bien à couvert. Et le premier dehors est fan de.
Ah merde, qu'est-ce qu'on a passé?
Ça commence à.
Ah, on commence à en avoir le 3 là.
Ça commence.
Natacha Saint-Pierre.
On l'a déjà dit.
J'ai déjà dit, ouais.
Ah non
Isabelle Boulay aussi.
Oh merde, c'est la suite logique.
Bah oui, ouais.
Zaz, on l'a dit, évidemment.
Zaz, on l'a dit.
Ah, non.
Patricia Casson, on l'a dit. Daniel Briand, on l'a dit.
On l'a dit. Obispo, c'était Patrick Fiori, Florent Pagny.
Comment il s'appelle, le type qui chante « Mon ami la rose »
Putain, je sais pas.
Oula, je me souviens plus.
Je sais pas, mais on dit ça.
Mais lui, ouais.
Le premier
d'or, il est fan de lui.
Voilà. Le premier qui sort d'or, il est fan de lui.
Trop bien.
Parfait. Voilà. Allez, bisous, Camilla.
Allez.
Gros bisous.
Bisous.
Salut, ciao. Ciao.
Se calla el cantor. vaya la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.